Bon, ben, si vous êtes prêts, on va y aller. Bon, j'avais conscience que le cours du 30 octobre était sans doute un peu compliqué. Donc je vais résumer pour ceux qui auraient lâché en route les points essentiels et puis après je continuerai. C'est vrai que c'est assez difficile, mais bon, je pense que c'est vraiment des choses importantes. Et comme j'y reviendrai l'année prochaine à travers les pathologies qui sont associées à ces instabilités génétiques, dans le système nerveux en particulier, je pense que c'est pas mal que vous ayez déjà une introduction. Après ça va s'assimiler tout seul, quoi. Donc, je vous le rappelle que le génome humain, mais pas uniquement le génome humain, est composé à 45% environ d'éléments mobiles, ce qu'on appelle les éléments mobiles. Alors, la plupart de ces éléments, je vous le rappelle aussi, sont fossilisés, c'est-à-dire qu'ils sont fixés dans le génome. C'est-à-dire qu'ils ne bougent plus dans le génome, ils ne sont plus mobiles, quoi, ils sont immobiles, ils sont incapables de se déplacer. C'est un nombre variable, hein, selon les espèces, qui peut se déplacer. Par exemple, chez la souris, il y en a 3000 transposons qui bougent, et chez nous, une petite centaine. Donc dans cette diapositive, vous verrez qu'on distingue, je vous rappelle qu'on distingue les transposons à ADN, c'est-à-dire qui bougent par un système de couper-coller. Je retire le fragment, je le déplace, je le recolle. Donc ça, comme avec des transposases qui permettent donc cette transposition. Donc ça, c'est intéressant. Ça n'amène pas des augmentations de la taille du génome, parce que ce que je remets d'un côté, j'ai retiré de l'autre. Et c'est pour ça que, en fait, ces transposons correspondent à environ 3% du génome, ce qui est relativement faible. Mais 3% du génome, c'est relativement faible, mais comme vous le savez, c'est plus que les séquences codantes pour des protéines dans un génome, puisque la région codante du génome, c'est environ entre 1 et 2%. Donc, on dit que ce n'est pas beaucoup, 3%, mais enfin, ça peut quand même faire du Spitz. Les autres transposons, eux, sont des rétrotransposons, c'est-à-dire que je transforme l'ADN en ARN, donc l'ADN reste dans le génome, l'ARN se décroche du génome, et il est rétrotranscrit en ADN et il est réinséré ailleurs. Donc, à chaque fois, on a une sorte de phénomène infectieux, c'est-à-dire qu'on augmente la taille du génome. Donc, c'est donc une amplification parce que la séquence fille s'ajoute à la séquence mère. Et il peut y avoir plusieurs séquences filles. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'occupation du génome soit plus importante que pour les transposons ADN. 8% pour ceux qui sont de type rétrovirus et 21% pour ceux qui sont de type lines ou signs. Rétrovirus, en fait, ce sont c'est ce qu'on appelle des rétrotransposons à LTR. Ils sont dérivés de rétrovirus. En fait, ils ont vraiment une structure de type rétroviral. Et les autres, ils ont des poly-A, ce n'est pas du tout de type rétroviral. C'est donc trois familles essentielles. Donc pour les autres, on va les oublier pour l'instant. Donc je vous dis 8% de rétrovirus-like. Donc... Et puis 21% de lines, c'est quand même énorme. Et puis les signs, autour de 11%. Mais quand même, vous voyez, les éléments transposables, c'est énorme. Donc on distingue, je vous l'ai dit, donc, entre rétrotransposons à LTR, donc, qui sont dérivés des virus, ou à poly-A, qui ne sont pas des dérivés de virus. Et ceux à LTR, qu'on appelle donc ERV, c'est-à-dire endogenous rétrovirus, voilà, mais il y a les human endogenous retroviruses, qui sont HERV, qui sont présentés ici quelque part. Je vois très très mal, je ne sais pas pourquoi. C'est ici, voilà. Donc, peut-être parce que mes lunettes sont sales, en fait. Donc, ces rétrovirus, c'est un peu comme l'HIV, hein, qui est un rétrovirus. Ils ne forment pas de particules virales, parce qu'il y a une de leurs séquences, en fait, les gènes d'enveloppe, qui peuvent faire l'enveloppe virale, sont mutés. Mais nombreuses séquences de RV subissent ce qu'on appelle une exaptation, c'est-à-dire qu'après avoir été introduits, ils ont été transformés en éléments codants pour des protéines naturelles, c'est-à-dire des protéines avec une fonction physiologique dans la cellule. Alors pour les autres, qui sont les ondes qui sont dites à poly-A, avec une polyadénaline que poly-A, comme dans la plupart des messagers, pas tous, mais la plupart des messagers, seuls les lines sont autonomes. C'est-à-dire que les lines sont les seuls, ils sont là, qui sont capables de faire tout le boulot. Ils ont tous les enzymes pour se rétrotranscrire et puis pour se réintroduire dans l'ADN. Les autres ne peuvent pas le faire. Et les autres sont des parasites des lines, c'est-à-dire qu'ils utilisent les enzymes des lines, en particulier ORF2P, dans lequel il y a la reverse transcriptase et la l'endonucléase. Ils l'utilisent pour faire le boulot pour eux, une fois qu'ils ont été transcrits. Ce que vous devriez voir, par exemple, on le voit ici, pardon, c'est voilà. Donc, voilà, oui, quand l'ARN vient se mettre là, la reverse transcriptase le prend, fait un rétrotranscrit. Il y a d'abord eu un nick qui est là avec l'endonucléase, et puis ensuite il y a un deuxième break à synthétiser, donc vous avez cette insertion. Donc, cette reverse transcriptase, elle peut être utilisée par les signs, comme je vous disais. Elle peut aussi être utilisée par des messagers qui sont dans la cellule et qui sont ainsi, ça donne naissance à ce qu'on appelle des pseudogènes. Donc c'est quelque chose de relativement classique. Alors les lines sont très longs, hein, ils ont environ 6000 nucléotides, ils sont autonomes donc, et puis ils ont tout ce qu'il faut pour se déplacer. Alors là, ce que vous voyez aussi, c'est que si la reverse transcriptase qui copie l'ARN pour faire un morceau d'ADN vert, ne va pas jusqu'au bout, et ça arrive très souvent qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Le 5' UTR, la partie 5' du messager, n'est pas copiée, et ça fait un insert qui est tronqué, et donc qui ne sera pas fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être transcrit puisqu'il n'a pas de séquence 5' UTR. Donc il va être immobilisé, c'est comme ça qu'il va être fossilisé. Mais ce n'est pas parce qu'il est fossilisé qu'il n'a pas, une fonction. Par exemple, il peut introduire de nouveaux sites de fixation pour des facteurs de transcription ou des sites de méthylation, des choses comme ça. Donc, ces gars fossilisés ne sont pas si fossilisés que ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une petite activité physiologique et probablement assez importante. Hein. Par exemple, ils peuvent coder pour des ARN régulateurs, ils peuvent modifier des sites de fixation de transcription, peuvent modifier la structure tridimensionnelle du génome, et ça c'est très important, de la chromatine. Et puis modifier les niveaux de phosphorylation, de méthylation, etc. Donc il y a les autres transposons à poly-A qui ne sont pas autonomes, mais ont besoin, alors comme les signs, comme les signs, par exemple les signs c'est des short interdistances, donc eux ils sont plus petits, hein. Un sign, c'est pas très long, là, c'est pas à l'échelle. Ça, c'est 6000 nucléotides, le sign, c'est environ 300 nucléotides. Donc, c'est beaucoup plus petit. Donc, il y en a 1,1 million de copies dans notre génome. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de copies dans le génome. Donc, ça, c'est énorme. Il y a aussi les SVA qui sont des rétrotransposons un tout petit peu mixtes, hein. Ils ont incorporé un petit peu d'endogénous rétrovirus, ils ont incorporé un peu de cinRNA, donc ils sont des drôles de bêtes. Il y en a 2700 copies. Et puis, je vais vous donner une version un petit peu simplifiée de l'affaire qui est là. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple, avec nos quatre catégories, transposons à ADN, les transposons autonomes, qui sont ceux à LTR qui dérivent des virus, ceux qui sont sans apolia, qui sont les lines, et puis les autres qu'on va subsumer sous le terme d'ALU ou de signs. Hein. Et là, c'est tout ce qui se passe dans le génome pour qu'on puisse avoir une reproduction de ces animaux. Les principales modifications, et donc c'est quand même toujours le but de notre aventure, hein, c'est de montrer que ces séquences qui sont conservées au cours de l'évolution ont une fonction très importante dans la modification des génomes, bien au-delà évidemment des mutations ponctuelles, des 1,23% de mutations ponctuelles. Le mythe des 1,23%. Donc vous voyez par exemple ici qu'en A, là, vous avez simplement un rétrotransposon ou un transposon qui s'est inséré dans un gène et qui donc a introduit une mutation. Donc ça, c'est tout bête. C'est une mutation par insertion. On la trouve dans certaines maladies. Hein. Il y a des cas d'hémophilie ou de rétinite pigmentaire qui sont liés à des insertions de ce type. Vous pouvez avoir aussi, évidemment, la formation d'une cassure. Hein, parce que vous avez une endonucléase, c'est une cassure. Une cassure, mais aussi, ça peut permettre une réparation. Quand un génome est cassé, l'insertion d'un line peut amener la réparation du fragment cassé. Vous avez des lésions qui sont... alors, vous avez des insertions... des délétions qui sont liées à des insertions. C'est-à-dire que vous allez déléter ce petit gène en gris et ça, c'est lié à l'insertion à sa place de notre élément transposable. Vous avez des recombinaisons ectopiques hein, qui peuvent amener à des pertes de grands fragments du génome, mais aussi à des duplications de fragments du génome. Et ça, je finirai, je pense, le cours là-dessus. Vous avez des exonisations, c'est-à-dire que si vous avez un gène avec deux exons et un grand intron, si vous avez une insertion de votre transposon à l'intérieur de l'intron, et si vous avez des sites accepteurs et donneurs de splice de part et d'autre de votre line, alors vous allez introduire une séquence qui pourrait être introduite dans la protéine, pour modifier votre protéine. Ça ne demande aucune mutation, simplement il y a un morceau qui peut se mettre en plus, et donc vous allez faire une variabilité. Là, vous pouviez faire, disons, deux protéines, là, vous pouvez en faire beaucoup plus, parce que celui-là, il peut aller se recombiner qu'un exon qui est là ou un exon qui est encore beaucoup plus loin. Donc ça, ça introduit énormément de diversité. Vous pouvez aussi, comme il y a des séquences polya dans les transposons, en tout cas, pas les ERV, mais les transposons de type line, signs et compagnie, eh bien, vous pouvez avoir une terminaison prématurée de votre transcrit. Je vais commencer à transcrire, et là, tout d'un coup, je vais voir un signal stop avec un polya, et donc je vais faire une protéine plus courte. Je vais oublier l'exon qui est un peu plus loin dans mon génome. Je vais avoir aussi des modulations d'expression, parce que si mon insert se fait là, à supposer que sur mon lines, j'ai une séquence qui va permettre de fixer des facteurs de transcription, par exemple, ou une histone, eh bien, je vais modifier la transcription des gènes qui sont en aval du site d'insertion. Une chose assez rigolote, c'est ça, c'est-à-dire que les lines, vous allez voir, les éléments transposables peuvent s'insérer en position sens ou antisens. Et donc, vous allez pouvoir créer des transcrits dans un sens qui n'était pas prévu, hein, en prenant une initiation à partir de votre line insérée. Les insertions sens-antisens sont à peu près égales. En fait, il y a plus d'insertions antisens que d'insertions sens pour les éléments transposables. Et puis, vous avez les régulations épigénétiques, c'est-à-dire que si j'ai des régions ici, par exemple, qui peuvent être méthylées sur des CPG, je vais attirer des méthyltransférases et je vais pouvoir peut-être augmenter le nombre d'éléments méthylés dans la région promotrice et donc réguler, en général inhiber, l'expression du gène qui est en aval. Donc, en fait, ces éléments qui sont présents et donc qui s'insèrent, qui vont se mettre dans plein d'endroits, évidemment, ont une action extrêmement importante sur l'expression génétique et même sur la diversité génétique des cellules. Plus globalement, de façon plus globale, les éléments mobiles peuvent jouer un rôle dans la structure tridimensionnelle des génomes. Hein. Donc, ça peut être important parce que, comme vous le verrez, comme on l'a déjà discuté, mais c'est un cours qui est un petit peu un cours résumé, qui essaie de vous remettre un tout petit peu les choses en tête. Par exemple, un enhancer peut être loin d'un promoteur, et vous savez que l'interaction enhancer-promoteur permet de modifier, d'augmenter, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un enhancer, la transcription du gène qui est en aval de ce promoteur. Et donc, on peut avoir des enhancers qui sont à très très grande distance. Et donc, il faut faire une boucle où le lancer vient se mettre au niveau du promoteur pour activer. Et vous verrez que la formation de ces boucles dans pas mal d'espèces est liée à l'insertion de séquences de type signs, parce que de séquences ALU pas mal en fait, signs, parce que ça permet évidemment, s'il y en a une ici, il y en a une ici, elles vont se reconnaître, donc elles vont se boucler entre elles, et puis ça va faire rapprocher dans ces deux domaines, hein, domaines qui sont topologiquement associated domains, topological associated domains. Et donc, vous avez plusieurs comme ça, vous pouvez former comme ça des structures de chromatine assez importantes avec plusieurs domaines associés sur le plan topologique. Et en fait, c'est comme ça qu'est un peu structurée la chromatine. Et dans cette formation de domaines associés sur le plan topologique, eh bien, les éléments transposables, dans la mesure où ils permettent des reconnaissances à distance, permettent de former ces boucles qui doivent être stabilisées par des protéines qu'on appelle des coésines, sur lesquelles je vais vous montrer dans un instant. Donc, on appelle ça les frontières entre les compartiments, hein, entre ces différents compartiments, les TAD ou boucles sont enrichies en sites de fixation pour une protéine qu'on appelle CTCF, qui est un isolateur génique. On appelle ça un isolateur génique ou génomique parce qu'il isole les différents TAD. Hein, et c'est le seul isolateur connu chez les vertébrés. Donc, il y a aussi une autre protéine qu'on appelle la coésine, et CTCF, qui est cet isolateur, et la coésine occupent des milliers de sites de fixation dans le génome. Alors, je vais vous montrer la coésine, c'est un ensemble moléculaire, hein, comme ça, une sorte de boucle, hein, qui a une forme d'anneau, et l'association entre la coésine et les CTCF, ici, vous voyez ici, la coésine, CTCF, cette association permet la stabilité de cette boucle. Vous voyez, par exemple, vous avez ici un site de fixation à CTCF, ici un autre site de fixation à CTCF, j'ai ma boucle, qui, une espèce de lasso là, qui vient se mettre là, et tout d'un coup, les deux CTCF se reconnaissent, vous avez une stabilisation là, une stabilisation de la boucle, et donc vous avez ce domaine là qui sort extrudé en extérieur, mais qui devient une structure stable, tridimensionnelle, dans mon génome. Donc l'association entre la coésine et deux CTCF, une coésine et deux CTCF, est une façon de stabiliser les boucles, et donc de stabiliser les domaines qui sont associés sur le plan topologique TAD. Donc les séquences qui sont reconnues, si vous voulez, en général, hein, les séquences qui sont reconnues par les facteurs de transcription évoluent très très vite chez les mammifères. Ça, c'est une sorte de loi. Mais ce n'est pas tout à fait vrai pour les séquences qui sont reconnues par CTCF, hein, cette protéine qui, comme vous voyez, se lie à l'ADN, se lie à la coésine, et puis orchestre cette formation des boucles dans ma chromatine. Et des boucles qui, comme je vous dis, associent les promoteurs, les annonceurs en particulier. Donc, ça sépare les domaines transcriptionnels, ça sépare les domaines chromatiniens, et c'est très important. Donc, CTCF, c'est une protéine à doigt de zinc. En fait, c'est des boucles qui sont liées par des fragments de zinc qui se lient à des cystéines, donc on appelle ça des doigts de zinc. C'est pas très important, on en a parlé il y a très longtemps, hein. Et donc CTCF se lie à l'ADN via des séquences qui sont des séquences extrêmement conservées, conservées des mouches aux humains en fait. Vous voyez ici par exemple la séquence, une séquence qui est assez conservée et qui est reconnue par CTCF. Et vous voyez, c'est une séquence palindromique. Palindromique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez CC, AC, et là vous allez avoir, je vois très mal moi, donc c'est pas grave, mais GG, CA, ou je sais pas, enfin, c'est complémentaire ici. Et donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une fixation comme ça, avec ce type-là, ça va reconnaître ça, et ça va reconnaître ça. Donc, vous avez une sorte d'association par complémentarité des bases. Mais vous pouvez avoir aussi, parce qu'il y a palindromique, si vous faites un truc comme ça, vous pouvez avoir ça qui va aller reconnaître ça après, voilà, hop, je fais une boucle, et puis lui, il va aller reconnaître celui-là. Pas le même, hein, qui est plus loin, mais qui est dans la même orientation. Donc, que je sois dans la même orientation ou dans deux orientations différentes, je peux former des boucles par association de mes séquences, et ça, c'est le début, si vous voulez, de la formation de la boucle. Donc, ensuite, évidemment, j'ai mon facteur qui vient se fixer là-dessus, et puis je peux stabiliser la structure tridimensionnelle. Donc, si vous faites prenez chez Sapiens, vous prenez de l'ADN, vous faites une immunoprécipitation avec l'anticorps contre CTCF, vous descendez pas mal de sites, vous descendez environ 50 000 sites, hein, c'est quand même pas rien, et 5 000 sont extraordinairement conservés, donc 10% sont très très conservés, dont 5 espèces qui ont été étudiées, en fait, c'est à partir de la chromatine de foie, hein. Les 5 espèces, elles sont là, il y a l'homme, il y a le macaque, Il y a la souris, il y a le rat et il y a le chien, je crois, un truc comme ça, si je vois bien d'ici. Je vois assez mal, en fait. Donc, si vous suivez l'évolution des sites de fixation, vous verrez qu'on constate l'existence d'une séquence environ de 33 à 34 paires de bases. C'est un motif, hein, avec une structure bipartite, hein, la partie 1 et la partie 2, et puis qui est conservée chez pratiquement tous les mammifères. Hein. Donc,
ça, c'est quelle diapositive, je sais.
Conservée chez presque tous les mammifères. Et donc, 40% des sites de sapiens ne se retrouvent pas chez les macaques, donc on a 40% de sites qui sont assez originaux. Et ce sont les sites qui sont les plus affins, c'est-à-dire que si vous mettez un siRNA, c'est-à-dire que vous diminuez la transcription et la synthèse donc, de CTCF, vous gardez toujours cette formation, parce qu'en fait, c'est très dur de détacher CTCF de ces sites. Donc, vous avez une très forte affinité. Donc, le bipartite, c'est M1 et M2, vous avez deux sites. C'est une structure qui est conservée depuis environ 180 millions d'années et qui est responsable d'un tiers, en gros, des fixations de CTCF. Hein. En fait, si vous regardez M1 et M2, c'est ici. En fait, cette structure bipartite, elle est responsable d'un tiers des fixations, donc c'est quand même pas mal. Elle est, je dis, très conservée. Et puis, vous avez ces 14 bases qui sont très informatives, qui sont marquées avec des très grosses lettres là-dedans. Hein. Si vous regardez toutes ces bases très informatives, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez 60 000, un peu plus de 60 000 combinaisons possibles pour faire des mots. Hein. Et CTCF est capable d'utiliser 33 000 mots différents à partir de ces séquences chez les 5 mammifères. Bon. C'est beaucoup, mais les top 200 sont responsables de 4000 fixations. Chez Sapiens, c'est en fait, on pourrait dire que 2000 séquences rendent compte d'à peu près la moitié des fixations. Donc, en fait, il y a des séquences qui sont très privilégiées pour la fixation de CTCF. Alors, il y a des mots qui sont surreprésentés, hein, bien entendu. Chez les animaux, mais pas chez les primates, alors ça c'est un petit peu dommage, on se rend compte que vous avez une très forte utilisation des séquences SYN pour former ces régions extrêmement représentées. Ça c'est entre musculus et le rat. Énormément de séquences qui sont conservées dans la formation de ces sites de fixation pour CTCF dérivent en fait de transposons. Et ça veut dire que, au moins en principe, hein, chez Sapiens, il faut regarder d'autres séquences probablement, et peut-être que ça ne marche pas chez Sapiens. C'est-à-dire qu'en principe, cette activité de rétrotransposition ici, avec des séquences de type SYN, c'est-à-dire des séquences d'environ 300 nucléotides, hein, c'est pas très gros, permettent de former des sites de fixation qui permettent de former des boucles. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des 21% de votre génome, ou 45% de votre génome qui est fait de séquences répétées, ça ouvre un réservoir énorme pour structurer le génome d'une certaine façon. Et bien entendu, c'est pas entièrement innocent que cette activité de rétrotransposition qui a accompagné l'évolution des espèces. Donc, la conclusion, si vous voulez, c'est que, c'est ça que je voulais en arriver, qu'il y a un rôle probable des éléments mobiles dans la structure tridimensionnelle de la chromatine. Même si dans ce cas précis, il semble que si des éléments mobiles ont participé à la construction des sites de reconnaissance, c'est surtout chez le chien et les deux espèces de rongeurs, mais pour ce qui est de cette étude-là, ils n'ont pas trouvé chez le macaque ou chez Sapiens. Donc avant d'aller un tout petit peu plus loin sur l'évolution des primates, je voudrais vous rappeler un tout petit peu que quand même, les éléments transposables ne jouent pas un rôle seulement dans l'évolution. Il joue un rôle dans le développement, il joue un rôle dans la physiologie, et même en tant qu'élément mobile. Et ça, c'est très important à comprendre si on veut comprendre non seulement la physiologie, mais aussi, bien entendu, ce qui s'y attache, c'est-à-dire la physiologie qui déraille, c'est-à-dire les pathologies. Donc, c'est des rôles qui sont contemporains, c'est-à-dire que ça joue dans la physiologie des organismes actuels. Hein. Et cette diapositive que j'ai prise dans un article de 2016, qui est une assez bonne revue, assez intéressante, résume, alors pour les lines, hein, la situation générale. Par exemple, vous avez une expression assez forte dans les blastocytes, c'est-à-dire les cellules embryonnaires qui vont former l'embryon très tôt au cours du développement. Petite cellule jaune ici, donc vous avez, pour les lines, vous avez une assez forte expression des lines. Ensuite, dans l'embryon en cours de développement, vous voyez que dans le cerveau, vous avez une très forte expression des lines, une très forte activité des lines dans le cerveau, parce qu'il y a l'expression, il y a l'activité. Hein. Là, c'est une très forte activité cérébrale. Et même dans le cerveau adulte, et ça, c'est amusant, vous voyez que vous avez une forte activité des lines. Vous en avez plus que dans la peau, par exemple. Donc, en fait, le cerveau semble être un site où les lines sont très contents de s'amuser à bouger pas mal au cours du développement, et aussi chez l'adulte. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils bougent, si vous voulez, dans les cellules post-mitotiques, encore que nous pensons que si, mais ça, c'est une autre affaire. Mais on peut dire que l'activité L1 est réelle également donc aujourd'hui, c'est-à-dire dans vous, dans moi et dans les embryons que nous faisons. Enfin, ça dépend des jours. Mais l'activité dans le cerveau est liée pour une grande partie à l'activité dans les cellules souches neurales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y a de la neurogénèse adulte. Hein. Et ces cellules souches neurales vont faire différents types de cellules, des neurones, des astrocytes, des oligodendrocytes. Et au cours de cette neurogénèse adulte, vous avez une grande activité de type saltatoire, si j'ose dire. Hein. Donc il y a également d'autres structures dans lesquelles ça passe. Donc en fait, cette idée qu'on a un génome fixe comme ça et stable est une idée qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en afflige n'est pas une idée juste. Là, si je vous rappelle un peu ces choses que j'avais montrées il y a très longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, d'un travail qui a été fait par Fred Gage, on sait que la neurogénèse chez l'adulte, il y en a au niveau de la SEZ, il y en a au niveau de ce qu'on appelle le dentate gyrus, dans l'hippocampe. Et dans le dentate gyrus, c'est très important la neurogénèse ici, parce qu'elle est impliquée dans la mémorisation, dans la mémoire de travail. Et au cours de la prolifération de ces nouveaux neurones, hein, qui vont donner des neurones glutamatergiques, eh bien, vous avez une grande activité saltatoire. C'est-à-dire que vous avez des lines en particulier qui sautent et qui vont s'insérer dans le génome. Comme 90% de ces neurones meurent avant de s'insérer dans un circuit, il y en a 10% qui restent. Et donc, l'hypothèse qui a été faite par Gage, qui n'a pas démontré d'ailleurs, mais qui, au moins, ça permet de rêver un petit peu. C'est que c'est du darwinisme somatique, c'est-à-dire que ceux qui restent, ils ont été sélectionnés sur la base des modifications qui ont été introduites par les mutations, et donc ils sont plus adaptés à la situation physiologique de l'individu au moment où il fait ses nouveaux neurones. Ça lui permet une sorte d'adaptation génétique, mais somatique, et pas sans avoir besoin de se reproduire. Il peut le faire juste par le cerveau, c'est quand même avantageux, quoi. Donc, et la conclusion qu'on avait tirée Sandra Martin, qui avait fait ce News and News sur l'article de Gage, c'est que finalement, même si vous êtes jumeaux au départ, avec toutes ces modifications génétiques qui arrivent dans la neurogénèse, à l'arrivée, vous n'êtes plus jumeaux du tout, enfin beaucoup moins en tout cas, pour ce qui est du cerveau. Pour le reste, c'est pas très important. Enfin bon. Donc, pour l'activité dans les neurones adultes, il se trouve que Julia Fuchs et Rajiv Joshi, dans mon laboratoire, dans leur équipe, ont démontré qu'il y a une forte expression des lines dans les neurones des mammifères in vivo. D'ailleurs, plus forte, si vous voulez, que dans le cœur ou dans le rein. Là, si je remets un facteur 100 pour le cœur et le rein, vous voyez que quand on passe dans le cerveau, on a une plus forte expression. Alors, il n'y a pas uniquement les lines. Il y a les lines, il y a les signs, il y a les IAP, qui sont des ERV, hein, des rétrovirus endogènes. Et vous voyez que c'est quand même assez fortement exprimé. Ça, c'est le contrôle, c'est le testicule. Mais quand même, ce sont des expressions qui sont pas négligeables, en plus que ce sont des gènes full length pour beaucoup d'entre eux, et qu'ils ont une activité physiologique dans des neurones post-mitotiques. Et ce qui est proposé, si vous voulez, c'est que normalement, et ça j'en ai parlé avec vous quand je vous racontais les papiers de Madame Superbiel, vous savez, la souris qui se balade, et quand elle pense, ça casse l'ADN, vous vous rappelez, et quand elle se repose, ça répare. Mais si elle a Alzheimer, ça ne répare plus. Donc, Et donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'au fond, en fonction de l'activité, l'endonucléase des lines fait des cassures dans l'ADN, donc ça casse, et c'est physiologique et c'est normal. Ça facilite la transcription génétique, parce que l'ADN il est tellement recroquevillé que lui-même, surtout quand il y a des gènes longs, qu'il y a des enzymes comme les topoisomérases qui font des nics et qui déroulent un peu, qui relaxent le système, qui permet l'arrivée des facteurs qui permettent de lire le génome. Et donc une endonucléase encodée par les lines pourrait avoir le même rôle. Malheureusement, il faut les contrôler, parce que si vous vieillissez, ce qui arrive, ou si vous avez une maladie génétique de type neurologique, ce qui peut se produire, c'est qu'au fond, il y a trop de lines exprimées. Et si vous avez trop de lines exprimées, alors vous passez un seuil où vous cassez plus que vous ne pouvez réparer. Et alors là, c'est la catastrophe, quoi. Donc, on a pas mal d'hypothèses dans le laboratoire et que, en fait, certaines maladies, en particulier certaines formes de maladies de Parkinson, pourraient être liées à des surexpressions de lines comme ça qui vont aller casser l'ADN dans nos neurones dopaminergiques. C'est pas terrible, quoi. Donc, mais c'est le genre de choses que je vous raconterai l'année prochaine, j'espère, si je maintiens mon idée de faire un cours sur ces questions et sur le rôle de ces éléments transposables dans les pathologies neurologiques et psychiatriques. Donc je vais revenir à l'évolution des primates quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse, en commençant par m'appuyer sur un article de 2008, qui est donc assez ancien, de Sasaki et collègues, et en me concentrant sur les éléments non codants conservés, les CNE. Donc, c'est les éléments non codants conservés, essentiels à la survie. Hein. Donc, ils contribuent à 3 ou 4% du génome. De nouveau, ça a l'air de rien, mais finalement, ce n'est pas si mal que ça. Hein. Et 16% de ces éléments non codants conservés dérivent de transposons. Hein. Alors, en 2008, cette équipe c'est autre chose, c'est juste, j'en aurais besoin pour la suite, mais c'est pour ça que je ne vous la mets là. Cette équipe a découvert une nouvelle famille de signs, c'est-à-dire de ces petites séquences à lui de 300 nucléotides qui ont besoin des lines pour bouger, qu'on appelait les signs et les amniotes signs, qui sont très conservés justement dans ces séquences. Ces séquences non codantes conservées, et donc, puisque conservées, probablement très importantes. Et dans ces séquences non codantes conservées, on trouve une certaine classe de signs. Hein, c'est toujours pour vous expliquer un tout petit peu la même question. Donc, cette conservation importante dans une clade particulière, les mammifères, hein, suggère fortement que ces signs d'amniotes hein, ont acquis une fonction régulatrice importante dans l'émergence même des amniotes. Donc, nous sommes des amniotes. Donc, je crois que c'est une illustration assez élégante du phénomène de détournement vers des fonctions physiologiques d'un accident de l'évolution, l'insertion d'un élément transposable, par exemple, ce qu'on appelle une exaptation, c'est-à-dire un élément qui n'était pas lié à une fonction physiologique et détourné vers une fonction physiologique. Donc, c'est un phénomène d'exaptation. Alors, pour comprendre un peu ce qui va se passer, je vous rappelle évidemment les caractéristiques importantes du cerveau des mammifères. Une absence de dorsal ventricle ridge, hein, vous voyez, il n'y a pas de couche chez les oiseaux, hein, il n'y a pas de couche. Et puis, on a un cortex à 6 couches, nous on a un cortex à 6 couches, que je n'ai pas présenté ici. Et puis on a des cellules de caral rhesus, dont je vous ai parlé souvent, qui sont des cellules qui migrent à la surface du cortex, qui participe à la formation des aires corticales, mais qui participe aussi à la migration des neurones le long des glies radiaires en les attirant pour les amener dans des cellules extrêmement importantes dans la formation d'un cortex à 6 couches et dans la formation d'un cortex tout court au départ. Il y a plusieurs fonctions dans les caral rhesus. Donc, je vous mets un petit peu ce qui s'est passé ici. En bas, dans cette question, vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que au cours de l'évolution, alors là, on a les... C'est pour ça que je vous avais montré celle-là avant, parce qu'on s'est séparé des sauropsidés qui vont donner les oiseaux, les crocodiles, enfin, tous les serpents et autres trucs. On s'en est séparé il y a environ 180 millions d'années. C'est là qu'on a donné les thérapsidiens, c'est-à-dire nous, en fait. Hein. Et puis, les amniotes donc arrivent à ce niveau-là. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que Vous avez eu l'origine de ces nouveaux signs qui on trouve dans les CNE. Eh bien, c'est avant la séparation entre les oiseaux et les reptiles, et puis ce qui va devenir les mammifères. Et donc, et c'est après la séparation que vous avez eu cette exaptation, c'est-à-dire ce recrutement de cet élément comme un élément régulateur qui va avoir un rôle à jouer dans le développement des mammifères, l'opossum, la souris ou l'humain, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique en évolution, mais cette exaptation ne s'est faite que chez les mammifères. Les signes sont arrivés avant, mais l'exaptation ne s'est faite que pour nous. Nous, mammifères. Bon, on n'est pas les seuls, hein, il y en a pas mal. Mais... Donc parmi les amnes signs, amnes pour amniote, conservées, il y en a 124 environ, qui sont au voisinage de 974 gènes. Hein, voilà, ici. Donc vous voyez, ils sont ici. Hein, ça, c'est les chromosomes de Sapiens. Hein, avec le X, et vous voyez qu'ils sont répartis relativement de façon homogène le long des différents, sur les différents chromosomes, même s'il y en a certains qui ont l'air de cumuler quand même. Hein. Mais vous imaginez l'insertion de ces séquences régulatrices aussi nombreuses dans un génome, ce que ça peut faire sur l'expression d'un génome. Hein. On est loin de ces quelques mutations soi-disant. C'est-à-dire que là, si vous imaginez que simplement ces petits gars-là, qui s'insère dans tous les chromosomes, la différence dans les chromosomes, ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques, enfin catastrophiques, monstrueuses. C'est pas, il y a des monstres porteurs d'espoir, hein, monstrueuses sur l'évolution des individus. Donc, si pour prendre un exemple, on peut regarder par exemple, un d'entre eux qui est AS0111. Il se trouve qu'il est là, hein. Il se trouve que S111 est juste... alors, dans mon papier, là, j'ai mis en aval, mais ça m'a l'air d'être plutôt en amont. Voilà, mais bon, c'est peut-être que j'ai regardé à l'envers, j'en sais rien. Mais en tout cas, à proximité, hein, voilà, de FGF8, qui est un facteur de croissance. Et vous voyez ici, si vous regardez la conservation, vous voyez que cet élément est conservé chez la souris, le rat, le chien, l'opossum, mais que vous ne le voyez absolument pas, hein, chez le poulet ou chez le tétraodon ou le xénope, hein. Donc, qui est une grenouille, en fait. Donc, qu'est-ce que peut bien être la fonction de cet élément qui est ici, hein, et qui contient donc un signe amniotique, hein, bien, pour le savoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cloné un gène rapporteur, en fait, qui code pour le bleu, hein, l'AXZ, hein, ça, c'est une technique maintenant que vous connaissez bien, en aval de cet élément régulateur, et puis ils ont mis un promoteur de Hitchcock protéine pour avoir quelque chose d'actif, et ils ont regardé comment ça s'exprime chez la souris avec je crois que c'est une opération, je crois, vers 10, 10e jour de la vie embryonnaire, mais enfin, c'est pas franchement très important. En fait, ils l'ont injecté dans l'oocyte. Non, excusez-moi, ils l'ont injecté dans l'oocyte. Ils ont regardé à différents temps du développement. Et vous voyez que ça, c'est l'activité du enhancer, d'une certaine façon. On va appeler ça un enhancer spécifique des amniotes. Et vous voyez qu'on le voit une très jolie expression ici dans l'hypothalamus, ici dans le diencéphale. Mais que si je regarde l'expression du FGF8, dont je peux penser, hein, pour les raisons que je vous ai expliquées, qu'il est contrôlé dans son expression par cette insertion, eh bien, si on regarde FGF8, ce qu'on voit, c'est qu'il est exprimé dans les mêmes endroits, hein, ici, vous voyez ici dans le diencéphale, c'est la même chose, mais il est aussi exprimé dans la frontière mésencéphalique-télencéphalique, dans mésencéphalique-métencéphalique, mesmet, et puis il est aussi exprimé dans le cortex, à l'avant, et ce n'est pas le cas de cet enhancer-là. Donc ça veut dire qu'une partie, on peut penser qu'une partie de l'expression de FGF8 dans la région diencéphalique et hypothalamique ici pourrait être liée chez les mammifères à l'arrivée de cette insertion dans un domaine régulateur très très proche. Alors, on peut dire, c'est assez intéressant parce qu'en fait, si maintenant vous vous amusez à surexprimer FGF8, je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait, en fait. Oui, donc, par électroporation maintenant, effectivement, dans la région du diencéphale, là où il est probablement sous le contrôle du l'annonceur nouveau, hein, qui est lié à l'insertion du signe, bien ce que vous voyez, c'est que vous avez une modification de la représentation somatosensorielle dans... ici, on est dans le thalamus, le diencéphaldone du thalamus. Donc, en fait, c'est l'homonculus qui est représenté dans le cortex. Il est aussi représenté au niveau thalamique. Hein. Donc, et une des représentations, c'est effectivement les vibrisses, hein, les représentations sensorielles sur le bord sur le museau de la souris. Et donc, cette représentation, elle monte vers le thalamus, puis vers le cortex. Vous voyez qu'ici, si vous surexprimez FGF8, eh bien, vous diminuez énormément la représentation de l'homonculus. Donc on peut imaginer que certaines constructions cérébrales, à la fois au niveau du thalamus, en particulier au niveau du thalamus, aient pu être modifiées par l'expression, par l'insertion, par l'arrivée, hein, par l'innovation liée à ce signe particulier. Donc il y en a un autre qui est assez intéressant, c'est celui-là, qui est un autre de la même famille, qui s'appelle AS021. Et lui, il est à côté d'un autre gène qui est un petit peu plus ésotérique, qu'on appelle SATB2. C'est un gène qui est impliqué dans le patron crânio-facial et dans la différenciation des ostéoblastes. Mais il est aussi exprimé, lui aussi, dans le diencéphale, à 13,5 jours. Hein, vous pouvez le voir, je ne sais plus où, quelque part. En fait, ce n'est pas tellement dans le céphale, j'ai dû faire une erreur quelque part, il est impliqué en fait dans le télencéphale, je vous prie de m'excuser. Et puis, donc fortement exprimé, bon, il est aussi exprimé dans le diencéphale, mais surtout très fortement dans le télencéphale, et en particulier ici, hein, à la frontière pallium-subpallium, qui est un endroit où naissent, à cette période du développement, une grande catégorie de cellules de Karl rhesus qui sont impliquées, comme je dis, qu'on ne retrouve pas chez les oiseaux en particulier. Donc on peut imaginer que cette source de cellules Karl rhesus pourrait avoir à voir avec cette nouvelle insertion qui sont spécifiques de mammifères, cette insertion de ces éléments transposables, encore que, bien entendu, il n'y a pas dans ce papier de démonstration directe de cette proposition. Donc maintenant, je vais essayer de vous intéresser en particulier au taux et au patron de rétrotransposition chez les grands singes, en prenant un article qui est l'article de... c'est celui-là. Hein, son nom est un petit peu compliqué, c'est Hormoz Diary. Là, c'est juste la référence que j'utilise souvent parce que c'est une des meilleures revues récentes et des plus simples sur les rétrotransposons. Donc cet article s'intéresse au taux de rétrotransposition le long de différents lignages, que ce soit les humains ou les singes anthropoïdes en particulier. Hein. Et ils ont étudié 83 génomes d'hominidés et 10 génomes d'humains. Hein, ça, c'est dans cette diapositive qu'on peut voir ça. Donc les sites d'insertion des éléments mobiles diffèrent, hein, selon qu'on a affaire à des séquences ALU, SINE, en particulier, ou des séquences de type LINES, L1. Hein. Alors, pour les deux catégories, il y a peu d'insertions dans les séquences codantes. Bon, ça, c'est pas tellement étonnant, parce qu'en fait, il y a peu de séquences codantes. Hein. Donc, il y a peu d'insertions dans les séquences codantes, et une majorité donc, des insertions se fait soit dans les introns. On pourrait dire que c'est des séquences codantes, mais c'est pas vraiment des séquences codantes, dans les introns d'un gène, soit dans les régions intergéniques. Les lines s'insèrent énormément plutôt dans les régions qui sont pauvres en gènes, qu'on appelle les gene desert régions, contrairement aux alus qui, eux, s'insèrent complètement au hasard. Donc, vous voyez ici, par exemple, la fraction des sites d'insertion. Alors, pour les lines, vous voyez qu'ils sont plutôt... qui intersectent des gènes. Donc, en fait, 65% des lines ne touchent pas des gènes, alors que pour les L1, c'est pour les alus, c'est random, quoi, en gros. Hein, ça, ce serait le random, et lui, il est effectivement random. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les insertions dans les gènes, quand elles se font dans les gènes, se font plutôt dans les séquences 3' UTR, c'est-à-dire dans les séquences régulatrices qui sont en aval du gène, donc ça peut avoir un rôle à jouer dans la stabilité, en particulier du transcrit. Et puis, on a un léger biais, et ça, c'est intéressant. Alors là, vous voyez, c'est les 3' UTR, et là, c'est les 5' UTR. Donc, on est vraiment on favorise l'insertion dans les 3' UTR. Et là, ce que vous voyez, c'est l'insertion dans le sens ou dans l'antisens. Et vous voyez qu'il y a une légère... random, c'est 50-50, bien entendu. Vous voyez que tant pour les inserts de type lines que signs, vous avez une petite préférence pour les insertions antisens. Et ça, ça vous rappelle ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous insérez un line, vous pouvez avoir une transcription qui part dans le sens qui n'est pas le sens attendu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant, parce qu'en fait, ça a des conséquences même pratiques. On ne peut pas utiliser une sonde antisens pour contrôle d'une sonde sens quand on utilise des lines, contrairement à ce que disent certains. Mais donc c'est et en même temps ça crée évidemment de nouveaux transcrits, hein, parce que le transcrit antisens n'est pas un transcrit sens. Donc si je construis maintenant des arbres phylogénétiques, je peux transcrire à partir de SNPs, hein. Les SNPs, c'est justement ces mutations ponctuelles, c'est 1,23%, c'est 30 millions de mutations ponctuelles. En fait, quand je regarde un arbre phylogénétique construit à partir de SNPs, en fait, ce que je fais, c'est un peu une mesure du temps, parce que mes mutations, elles sont liées au temps passé, même s'il peut y avoir des accélérations, des choses comme ça. Et donc, vous voyez ici que, voilà, les SNPs, vous voyez ici les humains, vous avez les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Donc, c'est vrai qu'on est... c'est clair qu'on est, plus près des chimpanzés, des bonobos et des gorilles que des orang-outans. Alors que c'est une sorte de distance qui est liée au nombre de mutations qui s'insèrent en fonction du temps. Non, si vous regardez les arbres généalogiques construits à partir des insertions des éléments de type lines, vous voyez que c'est très très proche des SNPs. Hein. Au fond, il y a une corrélation assez forte entre le nombre d'insertions des lines et le nombre d'insertions de mutations ponctuelles. Avec une différence, c'est que vous voyez qu'il y a une grande variabilité interindividuelle. Hein, très peu chez Sapiens. J'y reviendrai, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a assez peu de polymorphisme chez Sapiens. La raison, c'en est qu'en fait, très probable, c'est qu'on n'était pas très nombreux au départ. Je ne sais pas, quoi, 10 000 Sapiens quelque part en Afrique. Et puis qu'on a grandi, puis qu'il y a eu des bottlenecks, on a dû passer à quelques milliers d'individus. C'est-à-dire qu'il y a en fait, la diversité génétique chez les humains est très faible. Hein, elle est beaucoup plus grande chez les animaux qui ont eu des plus grandes populations, même si aujourd'hui, comme vous le savez bien, les chimpanzés et les orang-outans ont un peu de difficulté à survivre. Mais nous, on est là quand même, et je préfère que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, encore qu'au fond, ce n'est pas si grave. Mais quand on n'est plus là, on ne le sait pas. Donc, voilà. Mais vous voyez, la diversité, le polymorphisme chez les orang-outans, par exemple, est très grand. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, ce n'est pas tellement la question du polymorphisme, c'est la question des alus, des signs. Vous voyez que autant on peut voir qu'il y a une sorte de corrélation, en fait, le R2 est de 0,65 entre les lines et les SNPs. Vous voyez que pour les alus, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez qu'avec les alus, Sapiens, c'est parti, hop, beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que les insertions de séquences alus ont eu un rôle assez important dans la spéciation humaine très particulière. Donc les signs, les insertions de signs ont été probablement importantes. Et vous avez ici donc la longueur de la truc, c'est simplement les SNPs, hein, donc c'est le temps qui passe. Mais si vous regardez ici la séparation entre les humains d'un côté et l'ancêtre des chimpanzés et des bonobos, hein, C c'est pour chimpanzés, B c'est pour bonobos, vous voyez que pour les alus, il y a eu énormément d'insertions d'alus chez l'homme. Hein. L'épaisseur, vous voyez ici, c'est les 7000 ou 9000 insertions d'alus pendant cette période de notre évolution, qui n'est pas énorme, hein, finalement, c'est quoi, c'est 6 ou 7 millions d'années, hein, pas plus. Et puis, vous voyez que chez l'ancêtre des chimpanzés bonobos, il y en a eu moins, c'est moins épais, mais après, ça s'est fait. C'est après que les chimpanzés soient séparés des bonobos, vous avez vu énormément d'insertions. Et ça vous redémontre une fois de plus que les chimpanzés et les bonobos, ce n'est pas la même espèce. Hein. Ce sont des panes paniscus, panes troglodytes, ce n'est pas les mêmes bêtes. Hein. Maintenant, si vous regardez les lines, vous voyez que c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup moins de différences par insertion de lines entre nous et l'ancêtre des chimpanzés que par insertion de lines. Hein. Et ça, c'est ce que vous voyez en fait ici aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ces insertions d'éléments transposables de 300 paires de bases, en gros, a eu un rôle absolument important dans l'évolution de Sapiens. Donc ça, c'est il y a environ 1,5 million d'années hein, que ces deux gars se sont séparés. Vous avez rappelé le nord du fleuve Congo, le sud du fleuve Congo. Enfin, je vous ai raconté tout ça l'année dernière. C'est assez amusant. Donc, même si les signs sont importants, il se trouve que les gens ont beaucoup plus travaillé sur les lines. Donc, j'ai plutôt développé maintenant la question des lines. Bon, ils sont plus nombreux. Ils sont les seuls autonomes. Et surtout, ils contrôlent l'expression des signs. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de lines, les signs ne peuvent pas être actifs, puisque les signs sont des parasites des lines. Donc, en fait, c'est important quand même de regarder ce qui se passe avec les lines, parce que si je n'avais pas des lines qui étaient là pour faire ORF1P et ORF2P, c'est-à-dire la reverse transcriptase, l'endonucléase et puis les protéines qui permettent de stabiliser le message, les signs ne pourraient rien faire du tout. Donc, les deux fonctionnent ensemble. Donc, je vous rappelle que les humains... c'est possible que je traîne un peu aujourd'hui parce que j'aimerais bien finir ça cette année quand même. Sinon on recommencera l'année prochaine, mais je fatigue. Donc les humains, je vous l'ai dit, ils ont entre 80 et 100 lines qui sont actifs, c'est-à-dire de ces trucs qui peuvent sauter comme ça dans le génome. Bon, ce qui ne veut pas dire, je le répète, que les lines fossilisées ne sont pas aussi physiologiquement importants, non plus que les alus, évidemment. En dépit de leur caractère sauteur, bien entendu, de la perte du caractère sauteur. Alors, ces séquences qui ne sautent pas peuvent être transcrites, etc. Je vous ai rappelé ça, là, le repliement de la chromatine, les sites de méthylation, etc. Alors, un L1 complet, compétent pour la mobilité, une longueur d'environ 6000 paires de bases, hein, c'est 6 kilobases, voilà. Et sa transcription en ARN est initiée à partir, évidemment, de son 5' UTR. Donc, même si le génome humain comprend de 80 à 100 lines qui sont capables de sauter, qui sont compétents pour la rétrotransposition et pour la mobilité, en fait, il n'y en a que quelques-uns qui le font vraiment. On les appelle chauds. Ils sont responsables de la majorité des rétrotranspositions chez Sapiens. Donc, les auteurs de cet article, qui est vraiment un article assez rigolo, ont cloné 82. Hein, ils ont cloné 82 des 89 lines complets. Ils ont testé leur capacité à rétrotransposer, c'est-à-dire à se promener dans le génome. Ils l'ont testé dans des cellules en culture. D'accord. Donc ça, c'est une limitation, mais ils l'ont fait dans des cellules en culture. Et ils ont pris comme contrôle 100% un line qui s'appelle L1RP, qui est en fait un line qui a été identifié parce qu'il est responsable d'une mutation qui donne des rétinines pigmentaires, qui est donc pris comme étalon de l'activité des lines. Et l'activité de ces lines, elle varie entre 0,1% et 130% de l'étalon, si j'ose dire, donc de L1RP. Hein. Alors, sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a plusieurs familles. Alors, vous voyez, ces lines sont mises le long des chromosomes, et il y a plusieurs familles. Vous avez famille TA, des familles non TA, puis il y a des non canoniques qui sont des lines chimériques, en fait. Et quand ils sont couchés, c'est qu'ils sont morts. Hein, ils ne bougent plus. Et quand ils ne sont pas vraiment couchés, ils ne bougent pas beaucoup, mais enfin, il bouge encore un peu. Vous voyez, celui-là, là, il bouge un petit peu, quoi, voilà. Mais les petits gars qui sont debout, selon leur taille, bougent de façon plus ou moins importante. Hein. Et ce que vous pouvez voir, c'est regarder le code couleur, c'est que, d'abord, vous pouvez voir, c'est une disposition de ces 82 qui ont été clonés. Il y en a beaucoup plus, hein, comme je vous l'ai dit, mais cette disposition est relativement homogène dans le génome. De nouveau, ce sont tous les chromosomes qui sont touchés par ces phénomènes d'insertion de lines actifs. Et ce que vous voyez aussi, c'est que les rouges, les oranges et les jaunes, le DA0, il n'est pas très bon, mais il y en a quand même qui sont quand même parmi ceux qui bougent le plus. C'est-à-dire, il y a très peu de verts ou de bleus qui sont actifs. Donc, ce qu'on appelle la famille Théa est une famille extrêmement active, c'est la plus active en tout cas dans les phénomènes de rétrosurposition chez Sapiens. Hein. Donc, là, ce n'est pas des polymorphiques, c'est pas. C'est en bas, là, ici, que vous voyez la disposition Théa ou non Théa. Alors, ça, c'est les noms de famille de ces petits gars. Et donc, je vous ferai. Je vous comprendrai d'ailleurs pourquoi je vous donne cette information. Donc, les analyses de données de rétrosurposition montrent que C hot lines, hein, seulement sont responsables de 84% environ de l'activité des 82% des 82 lines qui sont testées in vitro. Et ça, c'est très frappant, c'est-à-dire que même si c'est tout cela, tous ces 82 sont capables de rétrotransposer, vous voyez que la rétrotransposition est liée à l'activité d'un tout petit nombre d'entre eux, chez Sapiens, hein, et en culture. Faire attention parce que c'est peut-être pas forcément la même chose in vivo, d'accord. Et ces lines qui sont capables de sauter sont généralement les plus récents dans l'histoire de l'humanité. Hein. En particulier, c'est la famille Théa, hein, sur laquelle je vais m'expliquer dans un instant. Comme le montre la diapositive suivante, qui est n'ayez pas peur, les sauteurs, hein, en particulier, vous voyez, A, ça veut dire actif. Donc vous avez les TAD, il y a une délétion d'un nucléotide, mais il est toujours actif, les TA1 non-D, et vous voyez que ce sont les plus récents, vous allez voir, et en fait, A, ça veut dire actif, donc ce sont les plus actifs, hein, plus on va vers les anciens et moins ils sont actifs, et puis ils sont polymorphiques. Et c'est normal, parce que comme ils sont toujours actifs, ils introduisent un polymorphisme dans le génome humain, donc ils sont responsables d'un polymorphisme interindividuel dans les génomes. Hein, donc ça, c'est... Il marque des différences entre individus. Donc ça, c'est intéressant. Et évidemment, c'est normal qu'ils soient les plus actifs. Donc les TA les plus récents chez Sapiens sont les plus actifs et les plus polymorphiques. Donc je rappelle quand même, par prudence, que le caractère dead, c'est-à-dire D, c'est-à-dire quand il ne saute plus, a été déterminé in vitro. Et donc, toujours dans des types de cellules un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on prend des fibroblastes, on prend des machins, on regarde si ça saute, si ça ne saute pas. Il faut se méfier. Il est possible qu'in vivo, il y en ait qui sautent, possible qu'ils ne sautent pas dans un type cellulaire, mais qu'ils sautent dans un autre. On ne peut pas entièrement exclure ces possibilités. Et vous savez, il suffirait qu'un seul L1 soit chaud dans un individu sur 1000, hein, il ne faut pas le rater, pour augmenter ce nombre de façon considérable. Hein. Donc, on peut dire ça d'une autre façon, c'est-à-dire que si pour un seul individu, il n'existe qu'un petit nombre de L1 très actifs, hein, ce nombre pourrait être très supérieur à l'échelle d'une population beaucoup plus grande. Donc, mais en fait, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a une centaine de lines actives, mais ce n'est pas forcément les mêmes qui sont les plus chauds en fonction des individus, forcément. Donc, évidemment, ça a un caractère décisif, hein, dans le contexte du cours que je vous fais cette année, c'est-à-dire que d'ailleurs, ce qui s'est produit depuis notre séparation des hominidés, hein, avec les primates humains, non humains, hein. Donc, il y a environ, comme vous le savez maintenant, 6 à 7 millions d'années. Et donc, là, je m'appuie sur un article de Boissineau, qui est donc, lui, c'est toujours le même, hein, je l'ai mis dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. L'article de Boissineau, c'est cette figure-là que je lui ai empruntée. Et de nouveau, on a travaillé sur les lines, là, qui sont les animaux, les gènes pour lesquels nous avons le plus de données, et qui commandent tous les autres, hein, aussi. Hein. Clairement, je pense que ce genre d'études devrait être fait sur les séquences ALU ou sur les séquences IAP. C'est dommage qu'elles soient dehors, et je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait se pencher de façon plus forte. Donc L1, hein, L1 s'est amplifié et a évolué chez les mammifères depuis la séparation entre les marsupiaux et les placentaires, hein, il y a environ 170 millions d'années. Et contribue aujourd'hui, je vous le rappelle, je vous l'ai rappelé plusieurs fois, à 14% du génome humain, plus que les signs, malgré leur plus petit nombre, mais c'est une question de longueur. Hein. Les lines, c'est 6000 et les signs, c'est 300. Donc, évidemment, même s'il y a beaucoup plus de signs que de lines, les lines, ça prend de la place. Voilà. Ce sont des éléments qui jouent un rôle considérable donc, sur la dimension et sur la structure des génomes, et par là, évidemment, sur notre évolution et sur notre physiologie, puisqu'ils continuent d'être mobiles hein, pour certains d'entre eux, et qu'ils ont des fonctions même quand ils sont fossilisés. Donc, je répète pour que ça rentre bien. Hein. Une nouvelle famille, la famille Théa, donc, la voilà, hein, elle est là, était en 2000, avec les données qu'on avait, impliquée dans 11 des 12 insertions mutagéniques identifiées, c'est-à-dire des insertions qui rendent les gens malades. Hein. Je parlais de rétinite pigmentaire. Et d'autres membres de la famille sont clairement actifs dans un test de rétrotransposition, je viens de vous le montrer. Alors, dans cet article, ce que les auteurs montrent, c'est que la famille Théa a émergé il y a 4 millions d'années. Ça nous intéresse, parce que 4 millions d'années, c'est après qu'on soit séparés des singes. Hein. On est déjà chez les hominidés. Donc, cette famille Théa est récente et elle nous est propre. D'accord ? Alors, depuis ces 4 millions d'années, elle s'est différenciée entre deux, les Théa0 et les Théa1. Et puis, Théa1 en deux, avec il y a une délétion qui s'est faite récemment, mais qui ne bloque pas, si vous voulez, le caractère sauteur. Donc, il y a des signatures qui sont assez spécifiques. Hein. Vous voyez, par exemple, les Théa ont un triplet ACA dans cette région, dans ce fragment du génome. Et puis, vous pouvez distinguer TA1 de TA0 par un doublet TG hein, qui change du GC qu'on peut avoir dans TA0, par exemple. C'est des signatures moléculaires qui marquent évidemment des modifications qui sont produites au cours de l'évolution. Alors, on dit que donc cette famille a émergé il y a 4 millions d'années, donc elle est spécifiquement humaine, et en fait elle est effectivement spécifiquement humaine. Je pense que j'ai raté quelque chose. Oui, je vous ai raté un petit bout, c'est possible. Oui, je vais rater ça, en fait. Donc, c'est toujours, je pense, Boissineau, hein. Et ce que vous voyez ici, c'est que là, c'est les 82, donc ça, c'est les full lymphes, donc ceux qui peuvent bouger. Vous avez aussi des gènes dans lesquels vous avez eu des insertions, des inversions, des délétions, et puis dans celui-là, il y a eu un alu qui est venu se mettre. Ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est TA0 par rapport à T1 en fonction du temps, donc en fait, vous voyez que TA1 est beaucoup plus récent que TA0. Et puis, vous avez TA1D qui a perdu un nucléotide versus TA1ND qui est aussi beaucoup plus récent. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la vitesse d'évolution de vos éléments transposables. Et en particulier, la famille TA, qui est une famille intéressante. Là, c'est ceux qui ont une taille connue, en fait. Donc, je ne sais pas combien ils sont là-dedans. Ce n'est pas les 82, je me suis trompé. Mais ils ont une taille connue. Je n'ai pas le nombre. Donc, ils ont émergé il y a 4 millions d'années. Donc ça veut dire qu'ils sont humains. Et là, vous pouvez le voir assez facilement. C'est-à-dire que si vous amplifiez avec des nucléotides qui, grâce à ces mutations dont je vous ai parlé tout à l'heure, permettent d'identifier les TA des non-TA, par exemple, eh bien vous voyez que si vous prenez des nucléotides 2 et 4 et 5 et 4, 2, il y a la mutation ici, 4, il y a la mutation ici. 5, il n'y a pas de mutation, mais vous prenez avec cette mutation ici. Vous voyez qu'avec vous amplifiez entre ces deux couples de primers, vous amplifiez uniquement à partir de l'ADN humain. Donc, ils ne sont pas ailleurs. Mais que si vous introduisez l'élément 6, hein, qui lui est un élément non TA, alors vous voyez présent dans toutes les espèces que vous allez regarder, des espèces de primates. Hein. Donc, en fait, vous voyez que ça vous démontre que les TA sont arrivés chez nous et uniquement chez nous. Donc, ils sont vraiment un marqueur des hominidés. Hein. Je ne dis pas des sapiens, ça, des hominidés. C'est-à-dire qu'après que nous soyons séparés de nos collègues chimpanzés. L'analyse par Stott-Blot, mais ça, ça ne vous intéresse pas, permet de quantifier le nombre de séquences. Et en fait, on a environ 700 éléments TA dans notre génome. Donc, ces éléments qui sont amplifiés depuis notre séparation avec les chimpanzés, comme on vient de le voir. Alors, les TA les plus récents, je le répète, sont polymorphiques, hein, là où il y a P, évidemment. Ce sont les plus récents qui sont polymorphiques, on a dit vous pourquoi. C'est-à-dire qu'ils sont présents ou non dans un locus selon les individus d'une même population. Et les expériences montrent, hein, c'est ce qui est en gras ici, qu'ils sont capables de rétrosuperposition in vitro. Donc, vous voyez que tous les types qui sont en gras ici ont été démontrés comme capables de rétrosuperposition in vitro. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables. Donc, de l'ensemble de ces données hein, qu'on vient de discuter un petit peu rapidement, mais que j'ai discuté quand même à plusieurs reprises hein, dans le cours, donc ce n'est pas pour vous des choses totalement nouvelles, on peut induire que les éléments transposables ont joué un rôle important dans la spéciation des primates humains et non-humains, bien entendu. Hein. Et c'est une question qui a été regardée directement de façon expérimentale, en fait, par de nouveau Frédéric Gage, grâce à l'utilisation de cellules pluripotentes induites. Vous savez, les manifs de Yamanaka en 2006 et 2008, quand je prends un fibroblast, j'exprime 4 gènes et je transforme en cellules souches. Et avec ça, je peux le mettre dans un œuf et je refais un animal complet. Et ça marche chez l'homme, bien qu'on n'ait pas fait la manip. Mais vous pouvez prendre un fibroblaste humain et transformer votre fibroblaste humain en cellule souche pluripotente humaine. Et ça marche aussi, évidemment, chez le chimpanzé. Hein. Et alors, ce qu'a fait le groupe de Rossi, de Frédéric, c'est ils ont comparé des IPS humaines, c'est-à-dire des cellules souches pluripotentes humaines, et puis des cellules souches pluripotentes de singes. Ils ont pris 2 bonobos et 2 troglodytes, hein, les bonobos et les chimpanzés. Hein. Et puis ils ont fait le séquençage, évidemment, de ces IPS, et ils ont comparé les séquences. Alors voilà exactement à quoi ça ressemble. Voilà donc. Vous connaissez évidemment tout de suite un chimpanzé et un humain et un bonobo. Clairement, le chimpanzé et le bonobo sont plus proches l'un de l'autre que de l'humain, même si on prend Darwin, qui a quand même une physionomie un peu simiesque, il faut bien le reconnaître. Mais bon, pour ceux qui disent qu'on est à 1,26% de ça, je veux dire, quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Donc, on peut fabriquer des IPS à partir de fibroblastes pris sur l'un quelconque de ces 3 animaux. Hein. Et puis, on peut aller regarder, faire un séquençage d'ARN pour regarder quels sont les ARN qui sont exprimés par ces cellules IPS humaines versus chimpanzés versus bonobo. Hein. Et vous voyez ici, donc c'est pas très compliqué, c'est l'expression relative par rapport à la moyenne de ces différents gènes. Je pense que là, il doit y en avoir quelque chose comme 11 585. Donc c'est pas mal sur les 25 000, ça fait quand même une bonne proportion. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les heat maps, c'est-à-dire qu'ils permettent de regarder les niveaux d'expression depuis relativement faible à relativement fort. La première chose que vous voyez, c'est que quand on prend des IPS, on n'a pas la même chose que quand on prend des cellules souches neurales. Hein. Sans ça, c'est des humaines, des IPS humaines, ou des cellules humaines, c'est la même chose, presque la même chose. Vous voyez que bon, y a un pattern qui est un pattern de type embryonnaire, très tôt. Mais ce que vous voyez aussi, si vous comparez le chimpanzé et le bonobo, c'est qu'eux sont très proches. Quand c'est rouge ici, c'est rouge ici. Quand c'est vert ici, c'est vert ici. Quand c'est rouge ici, c'est rouge ici. Donc, en fait, il n'y a pas une grosse différence entre les deux IPS des deux chimpanzés et les IPS des deux bonobos. Si vous regardez Sapiens d'un petit peu plus près, vous voyez qu'au fond, les mêmes gènes, bien entendu, sont exprimés. Hein, on a les mêmes gènes que les chimpanzés, ça va de soi. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que, vous voyez, là, c'est rouge et là, c'est vert. D'accord ? Là, c'est vert et là, c'est rouge. La C'est vert et la C'est rouge. La C'est vert et la C'est rouge. Et donc, ce que vous voyez, c'est que même si les mêmes gènes sont exprimés, ils ne sont pas exprimés au même niveau. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas le gène qui compte. C'est là où il est exprimé, pendant combien de temps, et à quel niveau. C'est pour ça que les séquences régulatrices qui sont tellement modifiées par les insertions d'éléments transposables sont évidemment fondamentales pour distinguer dans la spéciation. Et si vous regardez les quelques gènes qui sont exprimés chez le chimp et le bonobo, vous voyez que chez le bonobo, il n'y a pas de différence. Il y a 279 gènes qui sont plus exprimés chez le chimpanzé et 88 plus chez le bonobo, sur les 13 267 qui sont exprimés exactement de façon identique. Mais si vous regardez chez l'homme par rapport au chimpanzé ou chez l'homme par rapport au bonobo, vous voyez que vos cercles, évidemment, on est assez proches, hein, mais vous voyez que les cercles se distendent et que vous avez maintenant ici un certain nombre de gènes qui sont fortement exprimés chez l'homme, beaucoup plus que chez le chimpanzé. En fait, les gènes différentiellement exprimés, je vous les ai mis ici, hein, et vous voyez que chez l'humain, voilà, rouge, vert, et regardez chimpanzé, vert, rouge, un petit peu de vert là. Donc, en fait, ce sont des expressions qui sont fortement différentes, et on peut s'intéresser à séquencer, bien entendu, les gènes qui sont fortement différents. Évidemment, ça nous amuse de savoir quels sont les gènes qui sont exprimés de façon très différente entre un chimpanzé et un... On est dans les IPS, hein, mais bon, c'est quand même... C'est l'avantage, on peut travailler comme ça sur l'homme ou chez le singe en prenant des cellules de fibroblastes et en les transformant en cellules souches. Et puis on pourrait faire aussi des organoïdes avec ça et puis commencer à faire des cerveaux et à vraiment s'amuser, quoi. Mais si vous prenez les 50 gènes, par exemple, les plus exprimés chez l'homme par rapport aux primates non humains, vous trouvez ici en numéro 8 un type qui s'appelle Peewee-like 2. Hein. Ici, vous avez un type qui s'appelle ApoBec-C3B ou un truc comme ça. Oui, ApoBec-C3, pardon. Et il se trouve que Peewee, comme ApoBec, sont des répresseurs de Lines. Hein. Alors, ApoBec, on ne sait pas très bien comment ça marche. Honnêtement, le mécanisme d'action d'ApoBec sur la répression de la transcription ou de la synthèse des éléments transposables, on ne connaît pas. Peewee, on a une petite idée quand même. Peewee fixe ce qu'on appelle des pi-RNAs, et ça peut modifier les méthylations, enfin les histones répressives. Ça peut aussi modifier probablement la méthylation de l'ADN au niveau des sites qui régulent l'expression des transposons. Vous avez aussi une action de Peewee pi-RNA au niveau de la traduction des messagers. Enfin bref, Peewee est un répresseur connu des lines. Hein, j'ai dû vous raconter ça l'année dernière ou les années précédentes, je ne sais plus très bien. Donc, ce qu'on voit, c'est que parmi ces 50 gènes qui sont les plus, les tops, hein, les têtes de gondole de la différence d'expression, on a deux qui sont des répresseurs importants des lines. Ça, c'est assez intéressant parce que, effectivement, si vous regardez maintenant, prenez vos IPS, hein, vous avez deux lignées d'IPS pour les humains, les chimpanzés et les bonobos, hein, parce que, voilà, et donc vous pouvez voir que Peewee-L2 est beaucoup plus fortement exprimé chez les humains que chez les singes. Je dis singe maintenant, hein, pour mettre chimpanzé, bonobo, on dira singe. Voilà. Vous voyez que ApoBec 3B aussi très fortement exprimé. Si vous regardez au niveau du messager, c'est évident, hein, on voit bien. Et puis, si vous regardez au niveau du messager aussi pour Peewee-L2, vous voyez que c'est évident que les humains sont beaucoup plus donneurs, synthétise beaucoup plus de ces répresseurs d'expression des lines. Et en fait, vous pouvez voir ici, plus il y a de vert et plus je saute, d'accord ? En gros. Vous voyez que les lines de bonobo sont beaucoup plus actifs, on est beaucoup plus actif dans une cellule de bonobo que dans une cellule humaine. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est marqué ici, la mobilité. Donc, vous voyez que la mobilité chez l'homme est beaucoup plus faible que chez les singes. Hein. Donc, ça, c'est. Ça vous démontre que ApoBec 3B et Peewee répriment la mobilité, c'est ce que je vous disais, mais ça, vous m'aviez cru sur parole, bien entendu. Donc, j'espère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait une plus grande répression des lines chez Sapiens. Et en fait, si on immunoprécipite Peewee, on accroche les pi-RNAs qui sont accrochés à Peewee, hein, ici. Hein, et donc si on blasse les pi-RNAs sur les séquences de lines, on voit qu'ils se blassent soit dans les positions sens ou antisens, mais en fait qu'ils reconnaissent beaucoup les séquences de lines. C'est une des façons de méthyler les lines, d'empêcher leur transcription que de blaster un pi, de coller un pi sur la séquence. Donc ça, vous voyez ça. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous regardez la différence d'expression entre l'homme et le chimpanzé de différentes âmes. Vous voyez que jusque ceux-là qui étaient avant la séparation entre l'homme et le singe, ils sont exprimés de façon identique dans les cellules IPS d'humains ou de chimpanzés ou de bonobos. Là, c'est une humain-chimpanzé. Mais que ceux qui ont été exprimés après la séparation entre l'humain et les chimpanzés, vous voyez qu'il y a une plus forte expression chez le chimpanzé, pas un troglodytes ici, que chez Homo sapiens. Donc, et là, c'est les lines, ce n'est pas les signs. Vous savez que les lines, ce n'est pas ceux qui étaient les plus costauds, c'était les signs qui étaient les plus costauds pour l'évolution. Donc, ça vous montre qu'il y a probablement eu un effet très fort de ces éléments mobiles dans l'évolution de nos génomes. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça suggère que les expressions différentielles de A3B et de Piwi-like 2, mais les autres Piwi peut-être aussi, ont pu induire des changements de mobilité des lines de façon relativement récente. Et c'est probablement le cas. Et les nombres, on a un plus grand nombre de loci spécifiques des primates non humains va dans cette direction, hein, donc d'une moindre activité de rétrotransposition chez les humains et de plus chez les chimpanzés. Donc, on comprend d'une certaine façon, c'est assez intuitif, que les taux d'activité différents entre espèces peuvent avoir des conséquences considérables au niveau de la structure des génomes. Après tout ce que j'ai dit au départ, ça vous fait comprendre que c'est même la structure tridimensionnelle du génome peut être modifiée par ces activités de type mobilité des génomes. Avec un effet, évidemment, sur les processus d'adaptation, parce que évidemment, quand on crée de la diversité, on modifie les processus d'adaptation. Et il se trouve que la diversité génétique chez les humains, je vous l'ai dit, est faible, hein, beaucoup plus faible que chez les chimpanzés et les bonobos, et que ça se traduit au niveau des différences génétiques entre les individus. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de bottlenecks, hein, dans l'aventure humaine. C'est un miracle, hein, qu'on soit là. On n'aurait jamais dû survivre. Voilà. Ça va s'arranger, mais à moyen terme. Voilà. Mais bon, on est là. Donc, une explication aussi au fait qu'il y ait moins de diversité génétique chez Sapiens, c'est pas uniquement qu'on était très peu nombreux qu'il y ait des bottlenecks, c'est peut-être aussi, hein, lié au taux de rétrotransposition. Parce que si on diminue les taux de rétrotransposition, évidemment, on diminue l'hétérogénéité interindividuelle, parce qu'on est moins polymorphique, de toute façon, que chez des chimpanzés. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette espèce d'éventail qu'on voyait à la fin de l'arbre généalogique des orang-outans ou des chimpanzés, alors que chez Sapiens, c'était très resserré, on voyait une moins grande diversité génétique interindividuelle. Bon, c'est pour les individus qui ont été séquencés, bien entendu. N'oubliez jamais que quand on dit le génome humain, c'est toujours le génome d'un humain, celui qu'on a séquencé. Enfin, maintenant, on a commencé à l'avoir séquencé pas mal. Mais au début, avec Greg Vinter, il avait séquencé le génome humain. Non, il avait séquencé le génome de Greg Vinter, qui n'est quand même pas toute l'humanité à lui tout seul, même si c'est un grand savant. Voilà. Donc, je continue, mais je vais vous embêter encore un petit peu. On ne voudrait pas. Hein, mais je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Il y en a pour un petit quart d'heure encore, un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc, et c'est pour terminer, donc, que je vais revenir sur certains points qui ont le plus souvent un rapport avec les éléments transposables, mais on ne pouvait pas le savoir au moment où je vous les racontais. Donc là, l'affaire se boucle un tout petit peu. Hein. Je voudrais éclaircir ça. Donc, comme je l'ai souligné plusieurs fois, la présence de séquences répétées, la séquence de séquences répétées peut conduire, en particulier au moment de la méiose, hein, à des duplications ou à des délétions. Hein. Donc, vous voyez ici, là, vous avez une délétion, là, vous avez une duplication. Et donc, cela nous renvoie à une chose sur laquelle j'ai pas mal insisté à une certaine période, c'est des délétions qui sont spécifiques d'espèces. Par exemple, ce que j'appelais les human condel, c'est-à-dire les gènes qui sont conservés chez tout le monde, mais délétés chez l'homme. Human, conserved, deleted. Okay. Et donc, ce sont des séquences donc conservés chez nombre d'espèces, mais spécifiquement perdus chez Sapiens. Et il y en a une dont je vous avais un petit peu parlé, vous savez, c'est celle-là, là où on perd un fragment qui est responsable de l'expression de récepteurs à la testostérone dans certaines régions du corps et qui font que les canines se sont féminisées chez Sapiens, qui la perdu un vibrisse sur le sexe, enfin toutes sortes de choses, et qui est lié en fait à la perte de ce fragment ici, qui est dans le récepteur aux androgènes, qui est présent chez le chimpanzé, le macaque ou la souris, mais qui est perdu chez nous, et donc on a pu donc l'épine pénienne, on n'a plus non plus de vibrisse sur le museau. Donc ça, c'est un cas intéressant. Il y a un autre cas intéressant que j'aime bien, en particulier, que j'aime même un petit peu plus, pour rien vous cacher, c'est celui-là. C'est parce qu'il lie à la fois ces délétions spécifiques chez Sapiens aux accélérations de mutations dans des éléments conservés, qu'on appelle Human Accessed Region, HARE. Et le HARE5, qui est ici, il a énormément évolué chez Sapiens, beaucoup moins que chez les autres mammifères. Et il se trouve qu'il est à une grande distance de FZD8, comme vous le savez, mais que grâce à la formation des boucles et grâce, vous rappelez, à la formation des TAD, il va venir se mettre au contact et réguler l'expression de cet animal. Or, ce qu'on peut dire, c'est que R5 donc sert d'enhancer pour FDZ8. Et FDZ8, c'est un récepteur du facteur de croissance Wnt, hein, qui joue un rôle dans la production de neuroblastes. Donc le repliement permet l'interaction, malgré une distance qui est une distance de 250 000 paires de bases. Ils sont à 250 000 paires de bases de distance quand même, donc ça c'est pas mal. Et les éléments répétés, comme nous l'avons dit, permettent donc de ces interactions à distance. Alors dans ce cas concret, les mutations qui interviennent dans AR ont permis de comparer les annonceurs de chimpanzés et de sapiens et de montrer une plus grande activité chez la souris de l'annonceur de sapiens. Hein. Donc ça, vous le voyez ici, par exemple, vous pouvez prendre l'annonceur de sapiens ou l'annonceur, ça c'est Homo sapiens, ou l'annonceur du pan troglodytes, et vous voyez que à E10, vous avez une beaucoup plus forte expression de sapiens que de troglodytes. Et ça a un effet assez intéressant, ça a un effet sur la prolifération cellulaire. En fait, ça réduit la durée du cycle cellulaire, c'est-à-dire que dans un même espace de temps, dans vos neuroblastes, vous pouvez faire plus de cellules. Et la conséquence, c'est que si vous exprimez FZD8, c'est-à-dire le récepteur à Wnt, sous le contrôle du promoteur, de l'annonceur de Homo sapiens, hein, qui a évolué chez Homo sapiens et qui a pu se mettre proche des études du fait de ce repliement lié à la structure de la chromatine, vous augmentez la taille de votre cortex. Hein, voyez ici, et vous pouvez le mesurer, vous avez un cortex quand même plus gros. Donc vous avez une souris qui a l'annonceur humain, elle fait un gros cerveau. Mais si vous lui donnez l'annonceur chimpanzé, ça ne change pas grand-chose par rapport à la souris. Voilà. Bon, peut-être qu'on ne voit pas parce que c'est trop petit, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est une chose qui, je pense, est amusante parce que ça pourrait évidemment expliquer... alors, je ne dis pas que les lines ou les signs sont responsables de ça, mais dans leur mesure où leur participation à la structure chromatinienne est importante, on peut l'imaginer. Alors, il y a un autre effet des éléments transposables, bien entendu, c'est les duplications. Hein, donc, ce n'est pas uniquement qu'on peut délester, c'est qu'on peut dupliquer. Et donc, là, ça me permet de revenir sur un gène dont je vous avais parlé, mais dont il y a de nouvelles données sur ce gène, qui s'appelle SRGAP2. Et ça me permettra de finir le cours par là où je l'ai commencé, c'est-à-dire sur les questions de néoténie, c'est-à-dire de développement ralenti du cerveau chez les humains. Ralenti, mais efficace. quand même. Donc, c'est un travail qui a été fait dans l'équipe de Frank Poleux à Columbia et puis qui a été repris aujourd'hui, qui est continué en parallèle par une équipe française qui est de Mme Charrier, qui est maintenant à l'École normale supérieure, mais qui a fait son postdoc chez Frank et qui a sorti récemment, enfin en 2016, un papier dans Neurone, qui a un assez joli papier. Donc, SCARP2, je ne dirais pas ce que ça fait, ça s'appelle CYT-RoBo-RoGTPase, Activating Protein, vous en fichez complètement. Mais c'est quelque chose qui a à voir avec le cytosquelette, c'est-à-dire ça permet, ça a un rôle à jouer dans la migration des cellules, dans la formation des neurites, dans la formation des dendrites, des arborisations, etc. Et ce que vous voyez ici, c'est la duplication. Alors vous voyez, là, c'est très joli, je trouve, parce que vous avez le gène unique chez le chimpanzé, le gène unique chez l'orang-outan, et vous voyez que vous avez une duplication chez Sapiens. Et même, vous avez, donc, sur le même chromosome, hein, qui est, je crois, le chromosome 1, vous avez 6, enfin 3, hein, parce que bon, y a deux côtés. Et l'orang-outan, je vous ai souvent parlé de groupe externe. Hein. L'orang-outan s'est séparé de nous avant qu'on se sépare des chimpanzés, donc c'est un groupe externe. Et le fait qu'il y en ait deux ici et deux, qu'il y en ait qu'un, en fait, ça montre que c'est une chose qui est arrivée uniquement chez Sapiens. C'est un accident. Parce que si vous n'aviez pas de groupe externe, vous pourriez dire ah ben, Sapiens, le chimpanzé en a perdu, c'est lui qui a évolué. Il y en avait trois avant chez le chimpanzé, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Mais non, il y en avait, comme il n'y en a qu'un chez l'orang-outan, c'est Sapiens qui en a gagné deux. D'accord ? Donc c'est la démonstration de l'importance dans ces études évolutives d'avoir toujours un groupe externe qui s'est séparé avant les deux groupes qu'on étudie ou qu'on veut comparer. Donc, je ne sais pas où j'ai dit ça, mais enfin bon, cette duplication s'est faite il y a 3,4 millions d'années, donc après notre séparation avec les chimpanzés. Ça a donné un truc comme ça, c'est-à-dire que non seulement il s'est dupliqué, ce garbe de A, mais il s'est tronqué. C'est-à-dire qu'il a perdu une grande partie de son activité, ROGAP, qui est l'activité physiologique. Mais il n'a gardé que la partie qu'on appelle le domaine F-bar, qui est là, et même il a perdu 49 acides aminés dans le domaine F-bar. Vous voyez qu'il en manque un petit bout du domaine F-bar ici, et puis il y a eu des mutations. Et donc, celui-là on l'appelle 2B, 2C, celui-là on l'appelle 2A. 2C, c'est celui qui est le plus exprimé chez Sapiens. Or, les domaines, vous voyez que l'expression se fait à la fois dans la zone ventriculaire et dans ce qu'on appelle la plaque corticale au cours du développement, c'est l'endroit où arrivent les neurones quand ils sont post-mitotiques, qui commencent à construire le cerveau, les 6 couches du cerveau. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est des gènes qui sont exprimés au cours de la différenciation neurale. Ça, c'est une souche non différenciée, ça, c'est une souche différenciée en neurones. Donc, vous voyez qu'ils s'expriment plus tardivement, c'est-à-dire dans les neurones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine F-bar est un domaine de dimérisation des protéines. C'est-à-dire que ça, c'est un dimère. Que lui, 2A s'accroche à 2A. Mais 2A s'accroche à 2A, mais il se trouve que 2B s'accroche aussi à 2A et que 2C s'accroche aussi à 2A. Mais ils n'ont pas le domaine actif sur le plan physiologique. Et en fait, le résultat de ça, c'est que si vous exprimez 2C, 2C, c'est le plus exprimé chez nous, eh bien, vous allez inhiber l'activité de 2A, ce qu'on appelle un mutant négatif dominant. Donc, en fait, s'il est exprimé, il va aller bloquer l'activité de 2A. Et ça, c'est des effets très clairs. Hein. Bon, ils l'ont d'abord regardé chez des fibroblastes dont tout le monde se fiche, mais enfin, bon, quand vous exprimez ça sur les 2A sur les fibroblastes, eh bien, ça fait des espèces de filopodes, parce que ça mobilise les filaments d'actine. Donc, ça, c'est un truc qui est voilà. Mais si vous co-exprimez 2B ou 2C, alors 2B ou 2C seuls ne le font pas, mais si vous co-exprimez 2B ou 2C, ben vous voyez que vous allez bloquer l'activité de 2A. Et ça, c'est amusant, d'abord, mais ça peut se voir aussi in vivo. C'est-à-dire que si vous exprimez, surexprimez 2A in vivo, vous allez faire trop de fibres. Il va devenir exubérant. Et c'est un petit peu comme le mammouth dans la forêt, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, il ne pouvait plus marcher, parce que c'est un cas d'hyperthélisme. Ses défenses étaient tellement grandes, parce que ça plaisait aux femmes mammouths, qu'il ne pouvait plus entrer dans la forêt et qu'il s'est fait manger par les petits. Il faut se méfier des petits. Donc, et là, c'est pareil, il a tellement de fibres qu'il migre beaucoup moins vite. Hein. Et donc, vous voyez ici, j'ai encore des cellules qui n'ont pas arrivé à migrer jusqu'à la plaque corticale, qui sont encore en migration. D'accord ? Mais si je surexprime, je rajoute 2C, alors j'ai une migration beaucoup plus rapide. Hein ? Donc, vous voyez, ce qui arrive, j'en ai beaucoup plus qui arrive à un moment donné dans ma plaque corticale que normalement. Donc, en fait, mon 2C, il inhibe de A. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez ici ce qui se passe dans la... Là, c'est l'expression de SGARP2. Ça, c'est l'expression d'un marqueur postsynaptique. Et ce que ça vous montre, en fait, c'est que SGARP2, il est colocalisé dans la synapse au niveau postsynaptique. Donc, je peux faire une perte de fonction de SGARP2, hein, voilà ici. Et si j'ai fait une perte de fonction, vous voyez que j'ai une maturation complètement bizarre de mes trucs. Vous voyez, j'ai des longs coups avec des têtes qui sont au bout dans mes vésicules. J'ai des vésicules bizarres. Si je regarde la taille de la tête, là, elle est diminuée. Hein, c'est-à-dire que la boule en haut de ma, qui, sur laquelle la synapse va se former. Mais le nec, hein, qui porte la boule, lui, il augmente. Hein. Donc, tout ça pour vous dire, pour aller assez rapidement, que ce qui se passe quand je surexprime, quand je bloque l'expression de ce garde-B, quand je ralentis l'expression de garde-B dans mon système, eh bien, je ralentis la maturation de mon système nerveux. Je ralentis la maturation. Et ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, la maturation au niveau cortical, elle est impliquée dans la formation de ce qu'on appelle les périodes critiques. C'est-à-dire que si je ralentis la maturation, je prolonge la période d'apprentissage. Et chez Sapiens, je prolonge la période d'apprentissage postnatale. Hein. Donc, en fait, j'ai intérêt à ralentir. J'ai intérêt, pas trop quand même, hein, mais un petit peu parce que ça me permet de m'instruire en fonction du monde extérieur. Et dans le cortex préfrontal, comme je vous l'ai souvent dit, les périodes critiques, celles pendant lesquelles je peux encore apprendre parce que je suis encore plastique, parce que mon système n'est pas encore entièrement achevé sur le plan de la maturité, peut aller jusqu'à une vingtaine d'années. Et dans le cortex préfrontal, on pense que pas mal de maladies de type psychiatrique pourraient être liées à des anomalies, justement, dans cette maturation de l'inhibition, c'est-à-dire la maturation de ces petits neurones par bablumimicine, mais c'est une autre affaire. Plus récemment, donc ça c'est le travail qui a été fait dans le groupe de Charrier à l'École normale, ils ont montré qu'ils ont regardé donc, les synapses inhibitrices elles-mêmes. Ils ont vu que si on surexprime ce garde-C, c'est-à-dire qu'on inhibe 2A, hein, au bout du compte, on a plus d'épines dendritiques, hein, et on a plus de clusters géphyrines, c'est-à-dire des clusters qui sont la marque de l'inhibition. C'est des trucs qui stabilisent les récepteurs GABAergiques. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que cette expression, cette arrivée, cette duplication et cet effet inhibiteur sur ce GABA2A a permis de ralentir la maturation, ralentir la formation des synapses, et donc introduire, comme je vous l'avais raconté au départ, un effet néoténique dans la maturation du système de synapses excitatrices et inhibitrices dans le cortex. Donc tout ça pour vous dire que finalement, Sapiens, c'est un monstre, vraiment tout à fait animal, tout à fait étrange, mais pour vous rassurer, ça ne durera pas. Donc, prenons plaisir à cette monstruosité, puisque ça nous a permis d'être quand même les rois des animaux, hein, faut bien le dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année et des bonnes fêtes.